Qu'est-ce que le devoir ajoute à l'attraction du bien qui me finalise? C'est délicat de répondre à une question comme celle-là. Je répondrai, le devoir est essentiel, est un élément essentiel à l'acte moral parfait. Mais je ne dis pas que le devoir définit l'acte moral. Mais il est un élément essentiel à l'acte moral parfait. Une morale qui ferait abstraction du devoir ne serait pas une morale. Une morale implique et assume le devoir. Mais le devoir n'est pas ce qui fonde la morale. Le devoir est essentiel, il n'y a pas de morale sans devoir. Vous voyez, c'est là la très grosse difficulté. C'est que nous avons, à partir de Kant, des a priori. Et nous considérons que le point de vue de la morale, c'est une chose toute faite. Alors que nous devenons un être moral, nous nous éveillons à la vie morale. L'acte moral implique un devenir pour nous. Nous ne sommes pas un être moral dans le berceau. Quand vous étiez dans votre berceau, vous étiez très très gentil. C'est pour ça que vous étiez si mignon, parce que vous n'étiez pas un être moral. Et quand le devoir a pénétré dans votre vie, vous avez commencé à devenir un être sérieux. Et c'est vrai, c'est très vrai ça. C'est que nous devenons un être moral, vous voyez ? C'est peut-être cela qui manque le plus. Nous faisons une philosophie morale comme si c'était donné d'un seul coup. Pas du tout. C'est pour ça que je reprends. Et à ce point de vue-là, j'essaie de faire quelque chose que je crois être la vérité. Nous devons étudier l'acte moral, nos actes, qui impliquent cette dimension morale. Alors, je pourrais, au terme de la morale, avoir une vision de sagesse. Qu'est-ce que c'est que la moralité? Ce par quoi l'acte moral est moral. C'est ça la moralité. Je ne commence pas par la moralité, parce que ce serait un a priori. Je ne sais pas ce que c'est que la moralité. Vous n'avez jamais expérimenté la moralité. Vous expérimentez un acte moral, et qui devient de plus en plus. Aristote disait, et il a raison, des jeunes ne peuvent pas faire de l'éthique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'expérience de ce que c'est que l'acte moral. Ils peuvent faire des mathématiques. On peut faire des mathématiques très vite, si on n'est pas bête. Mais la philosophie éthique, il faut du temps. Alors, je crois que en terre chrétienne, avec une culture chrétienne, on peut faire une étude éthique beaucoup plus vite. Ça explique du reste des quantités de choses. Le christianisme mûrit l'homme. Et le mûrit quelquefois trop vite. Alors, les psychologues diront, voyez, le surmoi. C'est évident que on comprend très bien que lorsque nous prenons un peu de l'extérieur la vie chrétienne, ça risque de faire un surmoi. Quand vous prenez un peu de l'extérieur le noviciat, ça risque de faire un surmoi. Ça formalise. Alors il faut au contraire essayer de le vivre progressivement. On devient novice du Saint-Esprit. On le devient, ça met du temps. Il ne faut pas croire que c'est donné d'un seul coup. La grâce vous est donnée quelquefois comme un coup de bambou, mais il y a le lendemain de la grâce où il faut se relever. Et alors, à ce moment-là, on devient progressivement un être moral, un être chrétien. Ça met du temps. Pas quelque chose qui vous est donné d'un seul coup. Donc, vous voyez, une question comme celle-là, le devoir est-il un élément essentiel à l'acte moral ? je dirais, quel acte moral? Pas le fondement, mais l'acte moral parfait, oui. L'acte moral qui atteint, je dirais, son achèvement, oui. Et pas l'acte moral à, comme nous allons le voir, divers moments. Alors, comme l'acte moral à divers moments, ben, il faut préciser. On va voir une philosophie de l'analogie de l'acte moral. Et pas une philosophie univoque de l'acte moral. L'acte moral est un acte humain qui va se préciser selon ses diverses modalités. Qu'est-ce que le devoir ajoute à l'attraction du bien? Il ajoute justement l'exigence d'une responsabilité. C'est la responsabilité. Vous êtes responsable. Comment ça se fait? Comment êtes-vous responsable? Comment subitement vous avez le sentiment d'être responsable? La responsabilité est une conséquence de l'amour. C'est pas l'amour. L'amour est plus que la responsabilité. L'amour exige le don. La responsabilité exige la générosité. Alors vous êtes responsable, et du fait même que vous êtes responsable, vous avez un devoir. Comment naît en vous le sentiment du devoir? Comment naît en vous la conscience du devoir? Progressivement, vous avez un sentiment du devoir beaucoup plus aigu au bout d'une année de noviciat que lorsque vous êtes entré. Normalement. Et un vieux moine doit avoir un sentiment du devoir beaucoup plus grand qu'un novice. Vous voyez, c'est toute cette notion du devenir dans notre vie morale qui est très importante. Sainte Thérèse dit, ne jugeons jamais ce que nous avons fait il y a 15 ans avec la lumière de ce que nous avons maintenant. C'est très juste. Elle n'avait pas fait de philosophie, mais elle avait compris. Vous voyez, si je juge ce que j'ai vécu il y a 15 ans, alors pour vous, hein, ça fait quand même pas mal, hein, 15 ans. Hein, si vous jugez ce que vous avez fait dans la lumière il y a 15 ans, dans la lumière de ce que vous êtes maintenant, mais ça devient complètement faux. Parce que vous n'aviez pas la même lucidité morale. On a une lucidité morale. Et c'est dans cette lucidité morale que naît le sens de la responsabilité et que naît le sens du devoir. C'est en ce sens-là que vous ne pouvez jamais juger votre voisin selon les apparences. Parce que quelle lucidité morale a votre voisin? Vous avez peut-être vous, d'abord parce que vous êtes plus âgé, vous avez un petit peu plus d'expérience que lui, alors très bien. Ou parce que lui est un peu plus lent, il est nordique, alors il met longtemps à s'éveiller. N'est-ce pas? Oui, parce que quand on est du pôle nord, ça met longtemps, parce qu'on est né dans la neige, et le soleil, lui, comme un petit moment, alors on est un peu endormi, marmotte. Il y a des moralités marmottes. Ça met très longtemps avant de s'éveiller. Quand ça s'éveille, c'est merveilleux. Mais ça met du temps avant de s'éveiller. Tandis que vous, vous êtes du plein midi, en plein soleil, alors c'est extraordinaire. L'équateur, on a un sens beaucoup plus rapide des choses. C'est très vrai. Le tout, c'est que ça continue de bien mûrir. Sois pas un fruit précoce. C'est très curieux, ça. C'est pour ça qu'on ne peut jamais juger son voisin par le point de vue extérieur. Ne jugez pas selon les apparences. Parce que vous ne connaissez pas le degré de responsabilité de sa conscience morale. Seul Dieu sonde les reins et les cœurs. Jugement de sagesse. Hein. Et ce jugement de sagesse est très important parce qu'il nous fait comprendre justement ce qu'il y a de juste en disant que l'acte moral implique un devenir. Et si l'acte moral implique un devenir, je ne peux pas le juger de l'extérieur. Parce que je ne sais pas où en est mon voisin. Même s'il m'a fait des confidences. Donc vous voyez, ça c'est très important. On va voir naître le devoir, la conscience de la responsabilité. Vous dites, regarder l'efficacité ne me dira rien de l'intention morale. Mais il peut y avoir une intention qui soit seulement de gagner de l'argent ou de découvrir ou de gagner de la gloire, le plaisir, etc. Donc, l'efficacité n'est pas la même chose que l'intention. C'est ça que je veux dire. Que l'intention est plus profonde que l'efficacité, c'est ce que nous verrons. Nous verrons à quel moment se situe l'efficacité. C'est la fameuse phrase qu'on vous cite tout le temps, on juge un arbre à ses fruits. Ça, c'est l'évangile. Donc, je juge l'intention, l'arbre, à ses fruits, l'efficacité. Je vous ferai remarquer d'abord que c'est de la fécondité. C'est pas l'efficacité. C'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, on confond efficacité et fécondité. Et confondre efficacité et fécondité, c'est du positivisme. On est tous positivistes. Chaque fois que vous entendez interpréter cette phrase de l'Évangile, on la traduit comme l'efficacité. Ils sont tous positivistes, ces théologiens qui disent ça. Parce que confondre l'efficacité et la fécondité, c'est du positivisme. Vous ne mesurez pas la fécondité. C'est curieux que la fécondité scandalise les gens d'efficacité. Toujours. L'efficacité demande d'être très déterminé, méthodique et le plus précis possible. Ça, les gens d'efficacité, c'est comme ça. Les gens de méthode. Très, très bien pour relier des livres, mais pas pour les faire. Vous voyez tout de suite la différence. Donc, le point de vue de l'intention est source d'efficacité. C'est deux choses différentes. L'efficacité provient de l'intention, tout à fait d'accord. Mais l'intention est beaucoup plus profonde. On le verra, ça. Pouvez-vous préciser quelle peut être la vie morale de l'enfant ou de l'adolescent qui n'a pas découvert encore un amour? Vous n'en savez rien. À quel moment l'enfant a-t-il découvert l'amour? Quand il se jette dans les bras de sa mère, quand il lui fait un sourire, est-ce qu'il n'aime pas? Sondez les reins et les cœurs. Très difficile de savoir quand l'amour est né. Évidemment, c'est un premier amour sans doute très lié à l'instinct, mais l'amour peut être lié à l'instinct, pourquoi pas? Dieu veut que ce soit comme ça. Ah, dis pas, parce que quand il désire le lait maternel, il dit « Oh, c'est l'instinct, c'est pas l'amour. » Ben oui, mais c'est vrai que c'est l'instinct. Il a besoin de manger, il a besoin de respirer. L'instinct n'est pas l'instinct du petit chien ou du petit chat. Et même l'instinct du petit chien et du petit chat, l'instinct, dans le langage de saint Thomas, c'est un appétit naturel. C'est donc un amour naturel. C'est ensuite qu'on a dit l'instinct coupé de l'appétit. Ça, c'est depuis Occam. Où la finalité a été rejetée. Alors on a regardé l'instinct séparé de la finalité. Et on a opposé l'instinct à la finalité. Alors que l'instinct, c'est un appétit naturel. Naturellement, on aime de manger un vivant. Il aime de boire de l'eau. Puis quand il grandira, autre chose. Mais l'enfant, c'est le lait. Ça commence par le lait. Puis après, c'est l'eau. Puis après, c'est autre chose. Hein. On voit très très bien comment ça se gradue. Positif. C'est un appétit naturel. Si vous dites un appétit naturel, l'appétit naturel, il est lié à l'amour. Et donc, l'amour naît à travers cet appétit naturel. Et il peut très bien être déjà, et très vite, explicite, de sorte que c'est très difficile. Je ne peux pas répondre à ça. Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas quand, à quel moment est né. L'amour dans le cœur de l'enfant. Un petit enfant baptisé. Très vite, la charité est présente. Je crois. Très vite, il comprend un langage surnaturel, la prière. Jésus, quand un gosse se précipite sur vous, prend le chapelet, le rosaire, et puis baise la croix. C'est pas seulement quelque chose qui a été appris. Et ça se voit tout de suite, la manière dont il baise la croix. C'est quand même un point de départ d'un amour. Il y a un amour déjà divin qui est là présent, qu'évidemment aucune méthode psychologique ne pourra atteindre. Vous voyez, le positivisme, c'est de ramener toujours tout au mesurable. Je ne peux pas mesurer l'amour. Je peux le saisir. Toujours, à partir des effets, je peux saisir une source cachée. L'amour est toujours une source cachée. Vous ne pouvez pas mesurer l'amour. Donc, vous ne pouvez pas savoir scientifiquement, au niveau scientifique moderne, science humaine, quand l'amour est né. Du reste, on ne mesure jamais l'amour. Donc l'amour échappe à toute méthode dite scientifique. L'efficacité est mesurable, mais pas l'amour. L'intention échappe aussi à la mesure. Donc on ne peut saisir que philosophiquement. C'est dans ce sens-là que la philosophie est nécessaire pour essayer de dépasser le mesurable et saisir ce qui est à la source de ce mesurable, l'amour. Je ne vais pas plus loin. Je continue. Nous avions essayé de saisir quel est le point de départ, je crois ça très important pour nous, de notre philosophie morale. Je veux entrer, comprendre cette dimension particulière de l'homme qui est un être capable de devoir, de responsabilité, capable d'aimer. Je pars de là, cette constatation. Et je vois que les éthiques et les philosophies éthiques ont eu des modalités très différentes. J'ai essayé d'exclure comme point de départ ce premier amour que je ne peux pas saisir, et donc que je ne peux qu'essayer de rappeler et d'inférer. C'est une conclusion. Je dis sans doute le petit enfant, à la différence du petit singe, a un amour à l'égard de sa mère, très rapide. Le lien de l'enfant et de sa mère est très très fort. C'est pour ça qu'une mère qui rejette son enfant va créer chez l'enfant, chez l'adulte, quelque chose de terrible. Un sentiment d'être abandonné. Psychologiquement, ça a un nom particulier. Une psychose d'abandon. Qui peut provenir très bien de la première enfance, où la mère a brisé certaines choses. Sans tenir compte, elle n'est pas coupable, elle n'a pas pensé à ça. Son sens moral n'était pas assez éduqué. Alors, son sens moral n'étant pas assez éduqué, elle a cru. Oui. Dans le contexte dans lequel on est, une mère qui avait beaucoup de travail, une mère qui avait beaucoup d'activités, une mère qui s'intéressait à des études philosophique ou scientifique, le gosse, c'est embêtant, ça nous empêche d'être à ça. Alors, tais-toi, quoi, laisse-moi tranquille, je dois travailler. Mais le gosse, il n'a pas compris, je dois travailler. Il a compris qu'il était abandonné. Au moment où il voulait l'intimité avec la mère. Au moment où il voulait la présence. Et ça fait des brisures. Et ces brisures-là sont très fondamentales. Très fondamentales. Ont des répercussions après, vous voyez. C'est des lames profondes. Hein. Comme dans la mer. Hein. Des ruptures profondes. Parce que plus on est jeune, plus on est sensible. Et on est sans défense. Dieu a voulu que le gosse soit sans défense. Devenez comme des tout petits enfants. Sans défense. C'est vrai, l'enfant n'a aucune défense vis-à-vis de sa mère. Il peut qu'une seule chose, c'est de se mettre à crier. Mais la mère peut dire, allez, crie, crie. Et faire comme la mère du petit Ismaël. Je m'écarte, je m'éloigne, tu m'agaces avec tes cris, je te laisse crier dans le désert. Alors ça crée, je suis persuadé dans le petit Ismaël, hein, ça crée une psychose d'abandon. Il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas tout expliquer par là, c'est évident. Mais il y a quelque chose de vrai. Il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose qui fait qu'à ce moment-là, on n'a pas eu ce que l'appétit naturel réclamait. Un gosse a besoin de sa mère plus que du lait maternel, plus que de tout le reste, parce que cet appétit naturel est lié au premier amour spirituel. De façon très cachée, mais il est lié à cela. C'est pour ça que quand le Seigneur a permis qu'on ait une vraie mère, on ne verra que dans le ciel tout ce que ça nous a donné. Sur la terre, on trouve ça naturel. Et on s'en aperçoit quand on est en face d'adultes qui, de fait, n'ont pas eu de vraie mère. On a eu des femmes très capables, peut-être des artistes, peut-être des savants, mais n'ont pas eu de vraie mère. Et on considérait la maternité comme secondaire. Ce qui les intéressait, c'était leur œuvre. Et que l'enfant était second. Alors que selon la nature, l'enfant est premier. Il est fondamental. Et tout simplement, le fait de ne pas avoir respecté cet ordre de nature qui est inscrit au plus intime du cœur de la mère, fait qu'il y a des conséquences. Donc, nous ne pouvons pas nous rappeler ce premier amour. Je crois que personne d'entre vous, si parmi vous il y en a un qui se rappelle ce premier amour, qui vienne me le dire, je le noterai. Ça m'intéressera beaucoup. Un test merveilleux. Mais n'inventez pas, hein. N'inventez pas selon un rêve ou un cauchemar. Alors à ce moment-là, vous mettrez la date du cauchemar et qu'avant vous ne l'avez pas pensé. Normalement, c'est souterrain. C'est du reste très important de comprendre ça. C'est très important de comprendre que notre psychisme actuel, que notre conscience morale actuelle est fondée dans un souterrain. C'est peut-être ça la tradition, au point de vue naturel. C'est quelque chose de très, très radical, dont je ne me souviens plus. On m'a dit des caprices que j'avais comme enfant, on me l'a dit, je ne me souviens plus. Rappelez-vous votre premier caprice, vous avez dit non à votre père, vous avez reçu une bonne claque. Alors, les deux sont liés ensemble, hein. La claque et le nom. Alors, ça a aussi des répercussions. Parce qu'alors, vous n'osez plus dire non en face et vous le dites par derrière. Alors, c'est le clapier. Et on passe par en dessous du grillage en faisant un petit terrier. Parce qu'on n'ose pas dire non. Parce que c'est lié à la claque. Alors, vous voyez qu'il y a des... C'est vrai que c'est des tas de choses comme ça. Tout ça est vrai. C'est partiellement vrai. Mais il ne s'agit pas d'en faire un système. Je ne peux pas en faire un système. Ce serait faux. Parce que c'est du contingent. Mais ce sont des petits indices. Alors, comme indice, c'est intéressant. C'est indice, ce sont des indices, des signes. Surtout pas un système. Parce que je tomberai dans la dialectique. Ça, c'est l'erreur de la psychanalyse poussée jusqu'au bout. D'en faire un système, de tout expliquer par là. Non, on n'explique pas tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a la nature humaine qui peut encaisser des quantités de choses. Il y a des coupes qui ont peut-être été très maladroites, mais la coupe ne touche pas la nature. La nature peut toujours se reprendre. Ça qui est heureux. Tandis que dans le système psychanalytique, non, on ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas la nature. On oublie la nature. Donc, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas construire une morale à partir de souvenirs, d'une réminiscence. Nous ne pouvons pas construire une éthique à partir du devoir. En premier lieu, la notion de devoir est très intéressante, mais elle n'est pas première. Ce que je vous disais la dernière fois. Et ceci, c'est très important pour nous, parce que la morale kantienne, qui est très ancienne, puisque en définitive, c'est la morale stoïcienne. La morale kantienne, c'est le stoïcisme baptisé. Alors, d'une certaine manière, parce qu'il est baptisé, il devient a priori, grâce au baptême. Tandis que chez les stoïciens, il n'est pas a priori. C'est très curieux. C'est du reste intéressant de voir la différence entre la morale stoïcienne et la morale kantienne. Et tous ceux qui, après Kant, retrouvent ce même type de morale. Et ça existe encore de nos jours. Il y a encore des gens qui sont à considérer que la morale kantienne, c'est le prototype de la morale. Alors, s'ils sont chrétiens, dites-leur de regarder le Christ. Le Christ n'est pas kantien. Non. Il n'est pas kantien, c'est la morale des béatitudes. C'est tout à fait différent. C'est la morale des béatitudes, c'est la morale de l'amour. Donc au point de vue chrétien, je ne peux pas être kantien. C'est impossible. Au point de vue philosophique, je ne peux pas être kantien. Pourquoi ? Parce que je vois que la morale implique un cheminement. Je deviens un être moral. Si je deviens un être moral, ça ne me tombe pas du ciel sur le nez ou sur le cœur en disant « il faut ». À un moment donné, j'ai compris qu'en effet, je devais travailler. Et c'est lié aussi à des claques. Je devais travailler. Ça, le devoir est devenu quelque chose de douloureux. Parce que quand j'étais gosse, je n'aimais pas du tout de travailler. J'aimais beaucoup mieux de jouer. Ce qui est normal, hein. Parce que le jeu, c'est spontané. Le devoir, on avait quelqu'un qui était là et qui peut-être nous tapait sur les doigts quand ça n'allait pas et quand on ne savait pas sa leçon, quand chahutait. Donc, ça ne va pas du tout. À un moment donné, on a pris conscience qu'il fallait travailler. Le devoir. Parce que le devoir est très lié au travail. Et on a pris conscience qu'on devait travailler parce qu'on aimait quelqu'un. Et on a relativisé le devoir. Vous voyez, le devoir peut avoir deux aspects qu'il relativise et qui montrent qu'au point de vue philosophique, je ne peux pas avoir une morale du travail, du devoir. Il est relativisé par l'autorité, les parents. Tu dois aller à l'école. Pourquoi je dois aller à l'école ? Parce que je te le dis. L'autorité du père. Parce que l'autorité de la mère ne suffit pas. Parce que je te le dis. Tu ne dois pas rester un cancre. Je veux que tu fasses polytechnique. Alors, c'est lié à ça, puisque je le suis, donc tu dois l'être. Donc le père joue le rôle de pater familias, encore maintenant, cause formelle, qui a l'autorité et qui oblige le gosse de marcher à sa suite. Vous voyez, c'est une morale qui repose sur l'autorité. Donc, au-delà du devoir, il y a l'autorité. Cette autorité est ou l'autorité paternelle, ou la loi. C'est encore plus terrible quand c'est la loi. Ou la conscience morale, pour Kant, liée à une conscience religieuse. Ou encore l'amour. Alors ça, ce serait très intéressant de voir toutes les relativisations du devoir. Quand vous dites « il faut », vous savez que en Amérique, c'est pas moi qui ai suivi cette conférence, mais c'est quelqu'un que je connais très bien, il y a déjà au moins 20 ans. C'était au moment où la psychanalyse faisait florès. Maintenant, en Amérique, c'est déjà beaucoup diminué. Mais c'était il y a 20-25 ans. Alors, c'était quelqu'un qui vivait là-bas, intelligent. C'était un cousin du père de Ménas, qui m'a raconté une conférence sur la morale du devoir, faite par un psychanalyste. Alors, la morale du devoir expliquait des tas de choses. Et expliquer même la constipation. J'ai retenu la chose parce que c'était très intéressant. C'était très intéressant de voir que, de fait, il le disait ouvertement. Et il disait ouvertement, la morale du devoir, c'est ça. C'est. Et ça explique, vous voyez, comment l'être se replie sur lui-même. Très curieux, ça. Et considère le devoir comme un absolu, alors que le devoir est toujours relatif à autre chose. Toujours, toujours. Si je regarde le devoir, je vois qu'il est tout le temps relatif à autre chose. Je ne peux pas m'arrêter au devoir, c'est pas possible. Ça, c'est très important, hein, parce que ne soyons pas des kantiens retardés, ou de néo-kantiens, ou de néo-stoïciens, c'est pas chrétien. Le devoir existe, mais il n'est pas premier. Il existe, mais il n'est pas premier. Il faut dépasser cela pour essayer de comprendre que le devoir est fondé sur autre chose. Donc, alors, puisque le devoir est relatif à l'autorité, puis-je fonder la morale sur l'autorité? Je dis non. Parce que l'autorité n'est pas non plus première. Il y a la personne humaine qui, de fait, a l'autorité. Donc, ce n'est pas premier. L'autorité n'est pas un en soi. L'autorité est ordonnée au service des autres. Donc, si l'autorité est ordonnée au service des autres, l'autorité est relative à l'autre. Donc, je ne peux pas prendre le point de vue de l'autorité. La morale du devoir est ordonnée à la loi. Puis-je partir de la loi? Dire la morale repose sur la loi? Je dis non. La loi provient d'un législateur. Elle est le fruit d'un législateur. La loi présuppose l'acte moral et ne construit pas l'acte moral. La loi est au service de l'acte moral. Elle donne une cause exemplaire pour aider et comprendre ce que représente l'acte moral. Le devoir est ordonné à l'amour, présuppose l'amour. Ah, là, regardons. Si on peut partir de l'expérience que j'ai de l'amour spirituel, pour fonder ma morale. Mais je crois qu'il faut inductivement, dans une espèce d'induction très simple, montrer que je ne peux partir que de l'expérience de l'amour d'amitié pour fonder une éthique. Donc il y a toute une première petite enquête critique nécessaire pour montrer que je ne peux pas partir du devoir, je ne peux pas partir d'un amour passé, d'une réminiscence, je ne peux pas partir du devoir, je suis obligé, je ne peux pas partir de l'autorité, je ne peux pas partir de la loi. Il ne reste plus qu'une seule chose, c'est de partir de l'amour d'amitié. Pourquoi ? Parce que si la morale repose sur l'amour, c'est dans l'amour d'amitié où il y a émergence de l'amour spirituel. En prenant amour d'amitié dans le sens le plus vaste, le plus profond aussi, c'est dans l'amour d'amitié que j'ai conscience d'aimer. C'est dans l'amour d'amitié où l'amour se noue. C'est donc bien l'expérience de l'amour d'amitié qui est un point de départ. Et ce qu'il y a de particulièrement important à souligner, c'est que c'est dans l'amour d'amitié que la personne s'épanouit. Donc je suis en face d'une expérience qui est à la fois le point de départ et le terme. L'alpha et l'oméga se rejoignent. Or, c'est très important quand il s'agit du point de vue éthique. L'éthique ne peut exister que dans la mesure où j'ai le sens de ma finalité et de mon bien. Or, il faut découvrir un point de départ qui est en même temps un terme. Autrement, ça ne peut pas être le point de départ de l'éthique. C'est pour cela qu'Aristote commence son éthique par le bonheur. Mais je peux peut-être aller un peu plus loin et dire le bonheur pour moi, mais celui que j'expérimente en premier lieu, c'est un amour d'amitié. Le bonheur, ce n'est pas avoir de l'argent. Le bonheur, ce n'est pas avoir de la gloire. Le bonheur, c'est... Non. Aristote fait toute cette petite enquête. Où est le bonheur ? Peut-être que dans l'amour d'amitié. C'est donc bien l'expérience de l'amour d'amitié qui est le point de départ d'une philosophie éthique. Je donnerai un dernier argument qui est précieux pour nous. Dans notre monde d'aujourd'hui, où nous sommes après Nietzsche, étant donné ce qu'a dit Nietzsche par rapport à Kant, ce qu'a dit Nietzsche par rapport à la morale ecclésiastique, Nietzsche voudrait redécouvrir une morale du surhomme, au-delà de l'aspect de la créativité. Alors, c'est là où je peux dire, Nietzsche se trompe. L'amour n'est pas le surhomme. L'amour, c'est l'homme dans ce qu'il a de plus profond. C'est le cœur de l'homme, la volonté de l'homme qui s'épanouit dans l'amour. Et donc, la créativité n'est pas première dans l'activité humaine. Il y a quelque chose de plus radical. Je ne peux pas faire reposer la morale, l'éthique, sur l'art. L'art est un développement humain, très important, comme développement humain, pour me faire comprendre ce que je suis, mais il y a quelque chose de plus radical que l'activité artistique, que la créativité, c'est ma capacité d'aimer. Ceci, c'est important dans le climat d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'efficacité du travail, ce n'est pas la créativité qui fonde la morale. Ce qui fonde la morale, c'est l'homme, ou plus exactement la personne humaine, capable d'aimer. Parce que par l'amour, elle découvre ce qui est son bien. Et le bien n'est pas atteint par l'intermédiaire de l'activité artistique. Le bien n'est pas atteint par l'intermédiaire de l'efficacité du travail. Le bien est atteint immédiatement. Et le signe de cela, c'est qu'il y a un appétit naturel vers mon bien sensible. Et ce signe de cet appétit naturel vers le bien sensible me permet de découvrir que je suis capable d'aimer spirituellement une personne humaine comme mon bien spirituel. Je crois que ceci me permet de comprendre, dans une attitude de réflexion critique, que une philosophie éthique ne peut s'élaborer, se dévoiler, s'analyser qu'à partir de cette expérience que j'ai d'un amour spirituel dans l'amour d'amitié. Et que je ne peux pas fonder la morale sur autre chose. Et ceci est d'autant plus nécessaire pour moi après Nietzsche. À ce point de vue-là, Nietzsche m'aide et m'oblige d'aller plus loin. Et même plus loin qu'Aristote, voyez. Parce que Aristote est le premier, il est pionnier. C'est vrai, c'est son mérite, hein, constamment, au plan de vue de la philosophie première comme de l'éthique. Il est pionnier, il dit des choses qu'on n'avait pas dites avant. Il avait Platon devant lui. C'est pas commode quand on a Platon devant lui, vous savez, d'avoir comme père Platon. C'est un monument. Un monument extraordinaire, génial. C'est un peu comme la statue de Nabucodonosor, hein. Pied d'argile. Tout repose sur les idées. Et Aristote voit, non, papa, les idées n'existent pas. Donc il faut tout reprendre. Et son mérite, c'est d'avoir eu cette audace extraordinaire de tout reprendre par le bonheur. Nous, nous pouvons préciser, parce que nous sommes après toute une recherche qui a mûri l'homme. L'homme d'aujourd'hui est un homme plus mûr que l'Athénien du siècle d'Aristote et de Platon. Il est plus mûr. Et puis, il a vu beaucoup plus de bêtises qui ont été dites. Ça enrichit toujours la jeunesse. Voilà, toutes les bêtises qui ont pu être dites par rapport à l'éthique. Il voit le stoïcisme, il voit l'épicurisme, il voit la mystique platonisme de Plotin, il voit Kant, il voit Nietzsche. Tout cela doit me servir à comprendre que le fondement de la philosophie morale ne peut être la personne humaine, et je ne dis pas la nature, la personne humaine qui applique la nature, hein. La personne applique la nature, mais c'est plus que la personne humaine finalisée et expérimentée et faisant l'expérience de cette finalité dans un amour d'amitié. Qui mûrit l'homme. La philosophie éthique me fait comprendre l'homme dans un âge mûr. Et là, je rends raison à Aristote que l'éthique ne peut pas se faire quand on est trop jeune. La philosophie éthique ne peut pas se faire tout de suite, parce qu'on manque d'expérience. Et ça ne peut se faire qu'à partir d'une certaine expérience profonde que l'homme fait. Et c'est pour ça qu'à la différence d'Aristote, je ne dis pas que la philosophie morale part du bonheur. J'aurais sur le dos Camus, qui me dirait non, il n'y a plus de bonheur, les gens ne croient plus au bonheur. Les gens d'aujourd'hui ont une nostalgie terrible de l'amour d'amitié. Terrible. Une nostalgie. C'est pour ça qu'ils se précipitent quelquefois trop vite, de façon passionnelle, croyant trouver. Ils ont une nostalgie terrible de ça. Parce qu'ils sentent bien que c'est cela seul qui caractérise la personne humaine. Et qui lui permet à ce moment-là de comprendre ce qu'elle doit être dans sa plénitude, personne humaine.